Réplique que nous apprend la guerre en Ukraine avec Hubert Védrine et Philippe Delarue. Après 3 mois d'absence et de rediffusion proposée par la directrice de la chaîne, dont la solidarité m'a fait chaud au cœur, je dois en préambule quelques explications aux auditeurs. À la suite d'une bénigne opération, j'ai contacté une vilaine maladie nosocomiale. 3 vertèbres infectées, un long séjour à l'hôpital, 2 interventions chirurgicales très délicates. J'ai été finalement recraché par l'enfer et je suis loin d'être arrivé au port. Mais malgré le chemin qui me reste à parcourir pour marcher normalement, j'estime avoir assez de force pour reprendre réplique, c'est-à-dire pour être éclairé et beaucoup d'autres avec moi sur le monde comme il va et comme il ne va pas par les meilleurs esprits. Le monde comme il ne va pas, c'est aujourd'hui la guerre en Ukraine. Le sujet n'est pas original, j'en conviens. Mais comment penser à autre chose? Comment détourner le regard? J'ai donc invité Hubert Védrine et Philippe Delarue. Hubert Védrine, qui fut secrétaire général de l'Élysée durant les 2 septennats de François Mitterrand, puis ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement Jospin, et qui, entre autres mérites, ne se paye jamais de mots. Philippe Delarue est philosophe, maître de conférences en sciences politiques, et depuis plusieurs années déjà, il réfléchit activement à la question ukrainienne. Ma première question sera personnelle. La guerre qui s'est déclenchée en Ukraine, l'invasion de ce pays par l'armée russe, vous ont-elles décontenancé ou vous y attendiez-vous, Hubert Védrine?
D'abord, cher Alain, je suis content que vous repreniez ces émissions et je suis sensible au fait que vous m'ayez invité aujourd'hui en compagnie de M. Delarue. Alors, d'abord, moi je suis plus en fonction depuis des années, donc je réfléchis, je lis, mais je suis en contact avec beaucoup d'équipes dirigeantes à Paris, Berlin, Washington ou ailleurs, et j'avais en tête que une invasion était une possibilité, mais sans doute pas la première. D'ailleurs, dans un atlas que je fais avec Pascal Boniface, il y a 3 ans, on l'avait mis comme scénario numéro 3. C'était dans les scénarios. Mais il me semblait qu'une opération plus limitée était peut-être, je ne dis pas impossible de l'approuver, hein, mais que c'était dans les possibilités. D'autant que les efforts du président français, du chancelier allemand, avec l'acceptation plus ou moins du président américain, donnaient l'impression que peut-être la Russie allait obtenir ce que Kissinger regrette que ça n'ait pas été fait il y a 15 ou 20 ans, c'est-à-dire une renégociation globale de la sécurité en Europe. Donc je reconnais que, comme beaucoup de gens, j'ai pensé que l'option numéro 1, c'était plutôt une opération agrandie sur l'est de l'Ukraine. Et j'ai pas été donc totalement surpris, mais j'étais quand même été surpris d'une décision qui m'est apparue comme totalement aberrante, enfin atroce sur le plan humain, hein, mais en plus aberrante même du point de vue des intérêts russes. C'était ma réaction initiale. Donc c'est une demi-sidération, on va dire.
D'accord. Philippe Delarue.
Alors j'étais à moitié surpris, en ce sens que je m'attendais à une intervention militaire russe, en particulier à partir du moment où, alors que le Poutine avait annoncé la fin des exercices et le retrait au moins partiel des troupes massées à la frontière ukrainienne, il a fait exactement le contraire, c'est-à-dire augmenter la présence militaire. Mais en revanche, j'ai été surpris par l'ampleur de l'attaque et des objectifs désignés. Il s'agissait de tout simplement de faire tomber le gouvernement ukrainien. Je n'ai pas été surpris aussi parce que, du point de vue même des intérêts russes, il y a quelque chose d'aberrant dans cette guerre, mais justement ce que j'essaie de comprendre et d'expliquer depuis 10 ans, c'est que la Russie n'est plus un pays normal. Au 19e siècle, on pouvait dire, c'est attribué à Napoléon, mais ça m'étonnerait que ce soit lui qui l'ait inventé, tout état à la politique de sa géographie. C'était vrai au 19e siècle, mais nous savons de l'histoire du XXe siècle que ça n'est plus vrai. Et de fait, je pense que la Russie est devenue petit à petit... Alors, ce qui est paradoxal, c'est que c'est une révolution totalitaire au ralenti, entre la chute du mur et un moment justement qu'on ne peut pas assigner, puisque c'est progressif. Mais je pense qu'aujourd'hui, la Russie est un régime totalitaire et un État voyou, c'est-à-dire qui se moque du droit international, et pas seulement du droit international, mais je dirais de la réalité des relations internationales, des rapports de force, donc qui vit dans une réalité parallèle, comme l'avait dit un jour Madame Merkel.
Oui, mais on peut vous répondre, Philippe Delara, que la Russie n'est pas tout à fait en Europe un État comme un autre. La nation est la grande création politique de l'Europe. Ni cité, ni empire. La Russie a, sous différentes guises, toujours été un empire, malgré les convulsions et les ruptures et la grande révolution qui ont marqué son histoire. Cet empire a été dépecé après la chute du mur de Berlin, l'effondrement du communisme. N'est-il pas dans la logique russe que de reprendre les territoires, les pays, les nations qu'elle a perdu? Et si on se place sur ce plan-là, on peut dire, ben voilà, Poutine poursuit cette politique impériale, veut reconstituer l'empire perdu, parce que l'empire est peut-être la fatalité de la politique russe. Hubert Védrine.
Alors, il faut regarder sur l'histoire longue, en fait. Parce que la relation avec l'empire russe a toujours été compliquée pour les autres. Les relations avec l'URSS, il y a quand même un siècle très compliqué. Il y a une guerre froide après la Deuxième Guerre mondiale qui dure 70 ans. Et les relations avec la Russie qui réapparaît, non pas après la chute du mur, qui est une date très émouvante, mais ce n'est pas la plus importante. L'important, c'est la fin de l'URSS. 2 ans après, les relations avec la Russie, quelles relations? C'est là-dessus qu'il y a eu un débat, mais je crois que vous voulez y venir après, aux États-Unis, entre les vétérans de la guerre froide qui étaient réalistes et les triomphalistes de l'époque Clinton. Donc il y a une question irrésolue. Mais c'est vrai qu'il y a une structure géographique, quand même, malgré tout, plus l'idéologie dont vous avez parlé, qui alimente la paranoïa. Et je crois, mais ça on en parlera quand on parlera de l'avenir, que la Russie, de toute façon, ne sera jamais, jamais une social-démocratie scandinave.
Non, ça sera toujours autre chose. Acceptera-t-elle de devenir une nation? C'est-à-dire une nation, pas forcément comme les autres, parce que sa géographie, et c'est un espace tellement grand que ça change aussi un peu les données du problème. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose de plus fort que l'idée nationale en Russie, qui est l'idée impériale.
Et que peut-être que l'idée impériale a été mise en avant parce que l'idée nationale ne fonctionnait pas et que c'est une sorte de recherche folle de sécurité à la place. Et n'oubliez pas non plus que historiquement, les nations en Europe, parce que ça lui s'est apparu, elles ne sont pas tombées du ciel, hein. Elles se sont faites par le fer et le sang, quand même, beaucoup. Ou alors, il y avait un groupe dominant par rapport aux autres. C'est une construction très, 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 très dure qu'on ne voit pas refonctionner à notre époque ou dans d'autres endroits. Donc, je crois qu'il faut pas espérer, quand on aura fait le tour des horreurs en ce moment, c'est pour ça que c'est de l'analyse au milieu des bombardements de maternité. Enfin bon, il faut essayer de se projeter dans l'histoire quand même. Je crois qu'on arrivera à la conclusion que la Russie d'aujourd'hui ne peut pas suivre le chemin de certaines nations européennes d'il y a plusieurs siècles, et donc elle ne sera pas débarrassée de cette espèce d'obsession sécuritaire impériale. Donc est-ce qu'on peut réussir à canaliser cette chose de façon à ce que ce soit pas aussi atroce qu'aujourd'hui? Je ne sais pas.
Je voudrais entièrement d'accord avec ce que vient de dire Hubert Védrine, avec une nuance toutefois, c'est que cette expansion impériale, elle n'est pas liée simplement à une obsession sécuritaire, mais à un désir d'expansion. Depuis qu'il y a un empire russe, la surface de ce pays, n'a cessé de s'étendre, avec de temps en temps des revers, mais toujours des extensions. C'est de très loin le pays le plus grand de la Terre. Il a des frontières avec à peu près le monde entier, y compris les États-Unis, puisque là, par le détroit de Bering, l'extrême-est, le nord-est de la Sibérie jouxte les États-Unis.
Et c'était nos époques coloniales aussi.
Oui. Mais justement, le propre de l'histoire russe, la spécificité de l'histoire russe dont elle a du mal à sortir, c'est que ce qui a été pour nous le colonialisme, qui était une projection vers l'extérieur, pour la Russie, c'était en quelque sorte une colonisation intérieure.
Oui.
C'est un concept qui a été proposé par l'historien Alexandre Etkin, que je trouve très pertinent. Et ce que je voulais ajouter, par rapport à votre question sur l'impossible nation russe, c'est que la Russie telle qu'elle est aujourd'hui, à mon avis, n'est pas éternelle. Et que les tensions au sein de l'Empire, ajoutées à des revers, en particulier si revers il y a dans la guerre en Ukraine, pourraient provoquer des tensions qui travaillent déjà la Russie depuis 1991, notamment avec le Caucase, les républiques musulmanes limitrophes de la Chine, etc. Peut-être y aura-t-il un jour une nation russe, non pas par une conversion volontaire de la Russie, de ses dirigeants et aussi de la culture politique du peuple, mais de manière chaotique et moyennant des guerres internes, des sécessions, etc.
Mais alors, Hubert Védrine, dans votre livre « Vision du monde », vous ne parlez évidemment pas de la guerre qui a lieu aujourd'hui, parce que les textes sont antérieurs, mais vous pointez quand même, notamment pour l'annexion de la Crimée, la responsabilité de l'Occident, l'hubris dont ont été saisis notamment les dirigeants américains après l'effondrement du communisme, et en quelque sorte cette provocation que constituait l'élargissement permanent de l'OTAN vers les frontières de la Russie. En raison de la faiblesse de la Russie, ça pouvait être à chaque fois des faits accomplis. Et on pourrait vous rétorquer que si la Lituanie, la Lettonie, les Pays-Baltes en général, ont demandé immédiatement la protection de l'OTAN, c'était eux-mêmes pour se protéger d'un voisin vorace dont ils avaient peur, qui n'a jamais eu dans cet élargissement l'idée d'une politique expansionniste qui menaçait la Russie de quoi que ce soit. C'était l'idée plutôt d'empêcher la Russie de réabsorber ces républiques. Je pense notamment, et ça m'a été confirmé, si vous voulez, par ce qui vient de se passer, sur la question de l'embargo du gaz. Les grandes nations européennes se demandent, faut-il mettre un embargo sur le gaz russe? La Lituanie, elle, ne s'est pas posé la question du tout. Dès le début de la guerre, elle a dit qu'elle n'importerait plus jamais de gaz russe et elle a déjà pris ses précautions, puisque je crois depuis une dizaine d'années, elle est pourvue de gaz naturel liquéfié qui vient des États-Unis et qui arrive à un port lituanien, je trouve très intéressant, appelé Indépendance. Et les Lituaniens disent, parce que nous savons de quoi le Kremlin est capable et que nous ne voulons pas plus être à sa merci, nous avons décidé d'investir le plus rapidement possible dans notre indépendance énergétique. Mais il ne s'agit pas simplement d'indépendance énergétique, il s'agit de l'indépendance tout court, la volonté de ne plus être absorbé par la Russie pour exister par soi-même. Et n'est-ce pas cette volonté qui animait les Ukrainiens lorsqu'ils ont demandé immédiatement leur adhésion à l'Union européenne ainsi que leur adhésion à l'OTAN? Hubert Védrine.
Alors, c'est une question très importante, très sensible. Mais je vous rappelle que Trump était très favorable au fait que les États-Unis puissent vendre le gaz naturel liquéfié en Europe. Donc il était contre Nord Stream 2, mais pas du tout pour des raisons morales.
Trump, ça, oui, évidemment.
C'était pour vendre le gaz naturel liquéfié. Ils avaient laissé passer Nord Stream 1 parce qu'ils n'avaient pas ces capacités de vendre. Bon, c'est une anecdote par rapport au sujet fondamental. Alors, mon livre, c'est une anthologie de textes sur 25 ans, donc je ne traite pas de l'actualité immédiate. Mais je me suis référé souvent à un débat américain. Et je demande à nos auditeurs, qui sont certainement très sensibles sur ce sujet, de ne pas confondre avec des positions indulgentes ou même favorables de certains petits partis en Europe 20 ou 30 ans après, notamment des partis extrémistes, par rapport à ce qu'est devenu Poutine, à partir du mandat 3, on va dire. Parce qu'il faut bien avoir en tête qu'il y a eu la fin de l'URSS, il y a eu Yeltsin pendant des années, ce qui est un souvenir totalement traumatisant pour les Russes, puis Poutine 1, Poutine 2, puis Medvedev, puis Poutine 3, Poutine 4. Le débat américain, il est le suivant. À peu près tous les vétérans de la guerre froide, des gens qui avaient combattu l'URSS toute leur vie, le communisme toute leur vie, qui était totalement pour les libertés, des gens comme Kissinger, Brzezinski, Kennan, etc., étaient tous contre l'élargissement de l'OTAN au début. Tous. Mais je parle bien des années 90, hein, et un peu après. Et ils ont mis en avant, par exemple, Matlock, qui était le dernier ambassadeur des États-Unis à Moscou à la fin de l'URSS. Il a dit devant les Sénats américains, on ne pouvait pas à la fois élargir l'OTAN et avoir une Russie démocratique. C'est incompatible, puisque le pacte de Varsovie avait été dissous. À ça, beaucoup de gens répondent ce que vous avez rappelé. D'ailleurs, c'est que la Pologne le demandait, les pays baltes le demandaient, etc. Et c'était tout à fait normal pour ces pays, compte tenu de l'histoire, qu'ils se réfugient dans le commissariat le plus proche, c'est-à-dire l'OTAN. Et pour eux, l'Union européenne est une sorte d'annexe de l'OTAN. C'est leur vision. C'était tout à fait compréhensible. Donc, s'il avait fallu dire non, c'est pas raisonnable pour la relation à long terme de sécurité en Europe, il fallait bâtir autre chose, un système de sécurité convaincant. Ça n'a pas été fait. Et on voit que, historiquement, l'élargissement n'était pas... les Américains étaient très réticents. Je parle même pas de l'Ukraine, qui est un cas particulier après, mais même Pologne. Réticents jusqu'à ce que Clinton, certains disent pour des raisons, disons, électorales internes, compte tenu des problèmes qu'il avait, relance l'élargissement quand on y fait qu'il y a un gigantesque lobby polonais dans le Middle West, etc., etc. Bon, ça s'est passé comme ça. D'où le débat sans fin, avec des arguments russes qui deviennent un peu audibles au début, mais qui deviennent extravagants à la fin, comme quoi c'était une machine purement hostile. Mais en tout cas, le débat, c'est pas des pro-Poutine dans les années au XXIe siècle. C'est un débat américain par rapport à ça. Brzezinski, polonais d'origine, archi-anti-russe. C'est quand même lui qui a piégé l'URSS en Afghanistan, hein, avec les missiles et l'argent de Bin Laden. Il faut rappeler ça. Bon, donc très fort sur ce plan. Le même Brzezinski qui avait théorisé le fait qu'il fallait arracher l'Ukraine à la Russie, en dépit de l'ancienneté, puisque l'Ukraine est au cœur du monde russe depuis plus longtemps que la Bretagne n'est en France. C'est le même Brzezinski qui, à la fin, disait il ne faut pas mettre l'Ukraine dans l'OTAN. Il faut bâtir un régime de neutralité et de sécurité. Comment ça? C'est un autre débat. Ça n'a pas eu lieu, puisqu'il y a eu cette décision effrayante, à mon avis, à Bucarest, où on avait dit l'Ukraine a vocation à entrer dans l'OTAN, mais pas tout de suite. Donc le chiffon rouge sans arrêt, par rapport au taureau russe devenu cinglé entre-temps, et pas de ré-garantie non plus. Alors qu'il aurait fallu soit mettre l'Ukraine dans l'OTAN, et on sait comme ça. Mais la Russie négocie un traité pour garder Sébastopol. Ou alors dire l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, mais il fallait bâtir un système de sécurité, avec des garanties de part et d'autre, ce qui était peut-être encore possible à l'époque. Bon, c'est un débat sans fin, mais je voudrais dire que ce n'est pas un débat européen d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout un débat franco-français, ce n'est pas du tout un débat politique, encore moins électoral. C'est un débat historique et qui reviendra un jour ou l'autre, peut-être après Poutine, peut-être même après Poutine, avec Poutine, si les Ukrainiens eux-mêmes le demandent, hein, en disant comment on fait pour cohabiter avec cet animal qui peut devenir à nouveau enragé. Donc c'est un débat historiquement légitime. Mais voyez la distinction entre les vétérans de la guerre froide et les triomphalistes après, c'est l'époque hyperpuissance, on a gagné, valeur universelle, économie globale dérégulée, etc.
Philippe Delard. Oui, je serais tout à fait d'accord avec ce tableau. Je ne parlerai que de l'Ukraine, que du cas particulier de l'Ukraine. Juste un mot pour dire qu'à mon avis, le moment, si je puis dire, du déraillement de Poutine, ça n'est pas Poutine 3, c'est Poutine 1. C'est-à-dire que dès le moment... donc, il était encore Premier ministre de Yeltsin, il était un an, c'était le dernier Premier ministre de Yeltsin, avant même qu'il devienne président. La façon dont il a déclenché par des moyens peu glorieux la deuxième guerre de Tchétchénie et dont il l'a conduite, à mon sens, était un geste de rupture avec l'Occident. Et de ce point de vue-là, je pense que l'un des meilleurs, il y a eu plein de livres, évidemment, sur la Russie post-soviétique, mais l'œuvre qui m'a le plus marqué, c'est celle d'Anna Politkovskaya, qui a beaucoup enquêté sur la guerre de Tchétchénie et dénoncé. Elle a été assassinée en 2006 pour ça. Et quand on lit les ouvrages d'Anna Politkovskaya, on comprend que l'importance qu'elle donne à la guerre de Tchétchénie n'est pas liée. Bien sûr, il y a un aspect humanitaire, de dénonciation, de l'horreur, des massacres, etc. Mais c'est pas du tout du droit de l'homisme gnangnan. C'est qu'elle a compris et expliqué que la Russie changeait de nature, que la page que j'ai envie d'appeler plus chaotique que démocratique de 91 à 99, les années Yeltsin, étaient tournées de manière très profonde, et en particulier du fait de l'assentiment d'une partie importante de la population russe à la guerre de Tchétchénie et au comportement de l'armée russe, en dépit du fait, encore une fois, que tout le monde savait que la seconde guerre de Tchétchénie a été déclenchée en riposte à des attentats terroristes tchétchènes qui ont en fait été organisés par le FSB.
Oui.
Dès le début, on en était sûr pour certains d'entre eux, et il est à peu près certain que c'est la totalité. Alors, en revanche, ce qui est vrai, c'est que les Américains ont été divisés et fluctuants. D'une façon générale, le fait que l'Amérique ne sache plus ce qu'elle est et ce qu'elle veut depuis ce moment d'ivresse de l'hyperpuissance et de la fin de l'histoire est déstabilisant pour tout le monde. Et pour aller dans le sens de ce que dit Hubert Védrine, George Bush senior était très réservé sur l'indépendance de l'Ukraine. Il était obsédé par le problème de la dissémination des armes nucléaires. Or, il y avait un arsenal nucléaire soviétique très important en Ukraine. Et on peut dire que l'indépendance de l'Ukraine s'est faite rapidement malgré les États-Unis et non pas avec le soutien des États-Unis. Et maintenant, un mot sur la revendication d'adhésion à l'OTAN. Les Ukrainiens... Donc l'indépendance a été plébiscitée en Ukraine, mais pas du tout la perspective d'adhérer à l'OTAN. Et c'est très intéressant parce que nous avons des sondages, au moins depuis l'an 2000 et même avant, l'indépendance date de 91, sur l'opinion des Ukrainiens vis-à-vis des différentes possibilités d'insertion dans la communauté internationale, neutralité, adhésion à l'Union eurasiatique proposée par la Russie, adhésion à l'Union européenne, adhésion à l'OTAN. Alors, l'opinion fluctue. Au début, en fait, les Ukrainiens sont très prudents. Ils ont très vite été pour l'Union européenne. C'était un peu le symbole de l'état de droit, nous méritons de vivre comme des Européens. Et en revanche, grande hostilité à l'adhésion à l'OTAN. Et la courbe s'est inversée d'un coup, en 2014, après l'annexion de la Crimée et l'intervention russe dans le Donbass.
Oui, mais alors justement, cela prouve que l'Ukraine est en fait divisé. Alors, une nation se défend contre un empire en voie de reconstitution. Spontanément, je vois les choses ainsi. Simplement, je veux en revenir à ce qu'est une nation. Sans citer, pour une fois, Renan, mais Otto Bauer, l'un des représentants les plus éminents de l'austro-marxisme. Il dit « La nation, c'est une communauté de caractère constituée à partir d'une communauté de destin. » Et je voudrais, à partir de ces définitions, vous lire quelques extraits, très brièvement, d'un texte de Solzhenitsyn, « Comment réaménager notre Russie ?» il y a un chapitre intitulé « Adresse aux Ukrainiens et aux Biélorusses ». Je suis moi-même presque à moitié ukrainien et c'est entouré des sons de la langue ukrainienne que j'ai commencé à grandir. Je me sens comme l'un des leurs. Nous sommes tous issus de la précieuse ville de Kiev, d'où la terre russe tire son origine, comme le dit la chronique de Nestor, et dont nous est venue, et d'où nous est venue, pardon, la lumière du christianisme. Et il dit comment pourrions-nous ne pas partager la douleur des Ukrainiens devant les tourments endurés par leur pays sous le régime soviétique. Sans doute pense-t-il à l'Holodomor, la famine organisée par Staline au début des années 30 pour punir les Ukrainiens de leur mauvaise récolte, alors que celle-ci était due tout entière à la collectivisation forcée. Et il dit ceci, détacher aujourd'hui l'Ukraine, ce serait couper en deux des millions de familles et de personnes, tant la population est mélangée. Des provinces entières sont à dominante russe. Combien de gens auraient du mal à choisir entre les deux nationalités ? Frères, ce cruel partage ne devrait pas avoir lieu. Bien entendu, si le peuple ukrainien désirait effectivement se détacher de nous, nul n'aurait le droit de le rejoindre de force, mais divers sont ces vastes espaces, et seule la population locale peut déterminer le destin de son petit pays, le sort de sa région, et chaque minorité nationale qui se constituerait à cette occasion, à l'intérieur d'une unité territoriale donnée, devrait à son tour être traitée sans aucune violence. C'est intéressant, puisque...
Il est de quand ?
1990.
Ah oui, donc c'est juste avant la dissolution de l'URSS.
Voilà. Et on voit ce qui se passe avec le séparatisme de l'Est de l'Ukraine. Donc c'est une nation, l'Ukraine, mais c'est une nation divisée. Et l'une des questions que pose cette guerre, c'est la question de ses buts. On pouvait penser au début que finalement Poutine voulait annexer la partie de l'Ukraine qui ne voulait pas d'une Ukraine unitaire, mais peut-être simplement d'une confédération. Or, il a attaqué aussi à l'ouest, il a attaqué Kiev, etc. Donc, on ne sait pas vraiment. Il semble avoir, lui, un but complètement annexionniste. Mais que répondre à Solzhenitsyn ?
Je dirais que il y a un monde possible où ce que dit Solzhenitsyn aurait été confirmé aujourd'hui, en ce sens que l'histoire de l'Ukraine, c'est l'histoire d'une bascule permanente entre l'Est et l'Ouest. Il y a eu des périodes où une partie de l'Ukraine, en tout cas les élites, s'est trouvée tout à fait à l'aise dans l'Empire russe. Il y avait beaucoup d'Ukrainiens dans les élites politiques et intellectuelles. Mais le paradoxe de l'Ukraine, si vous voulez, c'est que, en dépit du fait que c'est une nation très étendue entre l'Est et l'Ouest, c'est un peu les portes de l'Europe, comme dit un très grand historien de l'Ukraine, le sentiment de l'unité de cette nation a été très précoce, en fait, et y compris les alternances d'opposition à la Russie, ou au contraire d'appui sur la Russie contre la domination polonaise, n'ont jamais éteint ce sentiment national, qui est en particulier lié à la langue. Or, il y a une grande littérature de langue ukrainienne dès le début du 19e siècle.
Mais reste la question du séparatisme.
Alors, il n'y a pas de séparatisme. Il y a bien des différences. Il y a eu et il y a encore des différences entre l'Est et l'Ouest. Mais d'abord, il est inexact de dire que l'Ouest est ukrainophone, l'Est est russophone, parce que la répartition, si je puis dire, des langues maternelles ressemble plus à une carte en peau de léopard. Vous voyez, il y a beaucoup de russophones à l'ouest. Les grandes villes de l'est et du sud sont russophones à 100%, mais pas forcément les campagnes alentour. Et surtout, on voit que, encore une fois, en suivant ces sondages, où on pose justement la question du territoire à laquelle vous vous identifiez. Est-ce que vous identifiez comme ex-soviétique, comme ukrainien, comme européen, comme appartenant à votre ville ou à votre région ? Et on voit au fil des sondages monter l'adhésion majoritaire à Ukrainiens d'abord et décliner les autres. Et il faut savoir que les soi-disant séparatistes du Donbass en 2014 sont en réalité... Enfin, il y a un microclimat dans le Donbass. Les gens de l'Est sont parfois... Il y a un ressentiment contre l'avance en termes d'occidentalisation de Kiev et de l'Ouest, mais il n'y avait pas de séparatisme. Ce sont des Russes, des supplétifs russes, qui ont lancé le mouvement séparatiste. J'en veux pour preuve le fait que jusqu'à 2014, il n'y a jamais eu de séparatisme dans l'Est de l'Ukraine, pas plus qu'à Odessa.
Eh bien, Védrine, un souvenir personnel qui ne contredit pas ça, mais qui... Ça va faire un passé beaucoup plus lointain. Pendant les 5 années où j'ai été ministre, ça m'est arrivé 3 fois d'aller à Kiev, invité par mon collègue ministre. Et à chaque fois, le ministre en question, qui a échangé entre-temps, m'a amené à un endroit à côté de Kiev en disant « Tu vois, c'est là où on a arrêté les Mongols. Donc la limite de la civilisation chrétienne devenue l'Occident, elle est là. » C'était là, mais c'était à côté de Kiev à l'époque. Bon, alors ce dont vous parlez, c'est beaucoup plus tardif, et ce que je dis ne contredit pas ce que vous avez dit sur un phénomène plus récent. Moi, sans être un expert, je suis pas du tout un expert de l'Ukraine, contrairement à vous, je connais un peu la Russie par fréquentation obligée. J'ai le sentiment que beaucoup de Russes pensent comme Solzhenitsyn, en fait, sur l'aspect historique. J'ai le sentiment que beaucoup de Russes détestent cette guerre, même s'ils sont quand même gagnés par la propagande unilatérale systématique, tout le délire sur éliminer les nazis, tout le machin. Bon, il y a quand même, je pense pas qu'ils soient pour la guerre, mais je crois qu'il y a un des phénomènes que Poutine n'a pas compris, il a surestimé son armée, sa capacité, il a sous-estimé les Occidentaux, leur capacité, le réveil de l'esprit de résistance et de défense, tout ça. Et en plus, il a complètement zappé le fait qu'il s'est créé, dans la période dont vous parlez, un sentiment ukrainien, peut-être pour la première fois dans l'histoire, d'ailleurs. Un sentiment ukrainien de gens qui veulent vivre à l'européenne et qui sont peut-être russophones, un peu russophiles, en tout cas pas poutinophiles, et sans doute pas, sauf très peu de gens, séparatistes. Donc il y a un phénomène assez récent, en réalité, qui remonte à peut-être l'affaire de la Crimée, alors que tous les Russes pensent que la Crimée est russe, hein, même les opposants à Poutine. Et je reviens à Brzezinski, qui pensait que l'engrenage aurait pu être évité. Enfin, il a eu lieu. Donc après, vous avez une Ukraine nouvelle qui est née sous nos yeux, qui va sortir, sauf s'il y a une partie qui devra être abandonnée, finalement, comme la Finlande l'avait accepté en 40. Hein. Il y a quand même un sentiment ukrainien très neuf, très fort, je crois.
Oui, enfin, il n'empêche...
C'est tout récent. Hein.
C'est tout récent, et il reste un malentendu, révélé par les accords de Minsk. On s'était entendu sur un État fédéral ou confédéral qui satisfaisait les Ukrainiens de l'Est, alors que sous la direction de Perestroïka, l'Ukraine officielle parlait toujours d'État unitaire. Mais cela étant effectivement ça, fédéral ou unitaire, c'est quand même un avenir national qui se préparait en Ukraine. Et l'étonnement que j'éprouve... C'est non seulement le fait que Poutine ait déclenché cette opération militaire spéciale, c'est aussi l'extrême brutalité de cette guerre qui se voit, à différence de la guerre en Tchétchénie, avec les moyens modernes de communication. On a l'impression que toutes les guerres se font sous les yeux des téléspectateurs du monde entier. Et c'est aussi une interrogation sur les buts de guerre de Poutine. Spontanément, on pouvait penser il va prendre le Donbass. Ce n'est pas sa décision. Il voulait aller chercher ce président nazi et, dans Kiev dévasté, créer un nouveau tribunal de Nuremberg. Et il souhaiterait finir la guerre le 9 mai, c'est-à-dire le jour anniversaire de la reddition, de la capitulation des nazis. Donc, ce mouvement me paraît très surprenant. Il y a quelque chose là que je ne comprends pas, ou alors je le comprends, sinon effectivement comme une volonté de revenir aux frontières anciennes de l'Empire. Hubert Védrine.
L'Empire, ça dépend de quelle date. Vous vous rappelez de ce que disait Poutine tout à fait à l'origine, hein, en parlant russe, celui qui ne regrette pas l'Union soviétique, voilà, n'a pas de cœur, mais celui qui veut la reconstituer n'a pas de tête. Tout le problème étant, est-ce qu'il est, il n'a pas oublié la deuxième partie du propos. Alors, deux remarques. D'abord, les atrocités. On voit bien que cette armée russe est c'est effrayant, cette armée russe. Elle était réarmée techniquement sur le plan des armements par les efforts de Poutine ces dernières années, mais l'armée, c'est une armée non préparée, de type pas encadrée, il n'y a pas de sous-officiers, ils sont ivres absolument tout le temps, ils font des abominations tout le temps, et c'est pas simplement les Tchétchènes, je ne sais pas quoi, c'est des gars moyens à qui on a dit qu'ils allaient participer. Dans certains cas, j'ai lu que dans certains chars où les gars avaient brûlé, en fait, on trouvait des uniformes de parade, parce qu'on leur avait expliqué que c'était des manœuvres et qu'ils seraient accueillis, etc. Donc il y a un problème monstrueux de l'armée russe, et dans très 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 longtemps, quand on aura dépassé tout ça, une des questions principales, ce sera est-ce que la Russie d'après-demain, d'abord est-ce que ça devient une nation comme vous le dites, mais est-ce qu'elle est capable d'avoir une armée normale, moderne, capable de contrôler les images collées ? C'est pas du tout le cas. Du tout le cas.
Mais c'était même...
Bon, ça c'est les atrocités.
Hein, pardon.
Les atrocités. Sur les buts, moi j'en sais rien, mais il me semble comme vous que Poutine s'était dit qu'il pouvait russifier l'Ukraine à nouveau, et qu'il le temps pressait. Pas simplement le 9 mai, mais le temps passe. Il a quand même dû comprendre que s'il attendait encore, ce serait complètement impossible. Je pense qu'il voulait peut-être pas faire la guerre partout, mais il a neutralisé toutes les bases militaires, en fait, y compris dans l'Ouest. Et il a dû croire, en effet, qu'il pouvait arriver dans Kiev, être accueilli et imposer je ne sais quelle fantoche à la place du président ukrainien qui s'est révélé à cette occasion. Mais vous avez vu depuis quelques jours que c'est plutôt les militaires russes qui parlent, chargés des opérations, et ils présentent le Donbass comme ayant été l'objectif. Comme l'objectif était flou, à un moment donné, ils peuvent dire « voilà notre objectif ». Ils peuvent réinventer l'objectif pour le faire coïncider à ce qu'ils auront finalement obtenu. Et donc on entrera dans la phase suivante. Est-ce que les Ukrainiens, si vaillants, s'y résignent ou pas ? Donc la question de l'objectif, on n'y répondra jamais complètement, parce que c'était pas écrit quelque part, il n'y a pas un objectif caché. Et de toute façon, il est obligé, même mal informé, même isolé, même ayant un entourage tout à fait réduit, qui lui, les mêmes choses, qui a dû lui passer mille fois un film sur la division pseudo-nazie, toutes ces histoires-là, ils sont quand même obligés de tenir compte des réalités de terrain. Ils ont en plus plusieurs généraux tués dans la bagarre. Donc ils sont en train de se refocaliser, peut-être, sur l'opération à l'Est, qui n'était sans doute pas l'opération du début.
Oui, l'armée russe est restée l'armée soviétique avec quelques joujoux. Deux petites remarques là-dessus, mais je voudrais surtout parler de Solzhenitsyn. Il y a eu non seulement 7 généraux tués, mais 4 limogés et arrêtés. Ce qui arrive souvent c'est pas aberrant dans les guerres. Oui, on le sait.
On le sait.
Je sais pas pourquoi. Tout le monde s'est polarisé sur l'information concernant les généraux tués. Mais il y a aussi des généraux limogés. Et la deuxième chose, c'est une parenthèse. Je voudrais faire un plaidoyer pour les sanctions. On dit toujours les sanctions sont des demi-mesures, on n'en prend jamais assez. Mais même les sanctions molles, limitées, qui ont été prises en 2014, après l'invasion de la Crimée, ont aujourd'hui un impact décisif, puisque si j'en crois un expert de ces questions, les Russes avaient développé depuis, dans les années 2010, un nouveau modèle de char, ultra moderne, mais qui n'ont pas pu terminer le développement de ce char à cause des sanctions de l'embargo sur un certain nombre de technologies sensibles, et c'est la raison pour laquelle les blindés les chars T-72 de la Russie sont des chars soviétiques des années 70 relookés. Et ça pèse certainement sur la situation militaire. Mais je voudrais revenir au très beau texte de Solzhenitsyn que vous avez cité. Évidemment, il provoque la répulsion des Ukrainiens, et je le comprends. Mais je voudrais souligner deux points dans ce texte, où encore une fois, je disais que Solzhenitsyn parle d'un monde possible qui aurait eu un sens si l'histoire avait évolué autrement, je dirais depuis les périodes d'âge d'or au 19e siècle, où la noblesse ukrainienne, y compris la noblesse d'origine cosaque, bénéficiait l'appartenance à l'Empire, c'est que Solzhenitsyn dit deux choses dans ce texte. C'est que, un, la réunification, l'unité biélorusse, Ukraine, Russie, ne pouvait être que volontaire, et oui, qu'il n'était pas question de la réaliser par la force. Et d'autre part, elle va de pair dans sa vision avec la séparation des trois nations russes dans son esprit, d'avec le reste de l'Empire, et en particulier le Caucase. C'est-à-dire que Solzhenitsyn a une pensée qui est à mi-chemin entre l'Empire et la nation.
C'est une pensée slave, quand même. Mm. Il n'y a pas le Caucase dedans.
Oui.
Mais alors, Solzhenitsyn pensait à un avenir possible.
Un monde possible. Ce monde possible.
Ce monde.
C'est comme le monde possible où la France et l'Angleterre ne font qu'un seul pays parce qu'ils ont gagné la guerre de 100 ans et tout le monde parle français.
C'est le traité de Troyes.
Oui.
Ce monde n'est plus possible aujourd'hui. Les choses ont évolué autrement. Cette guerre atroce suscite en Occident un activisme judiciaire. On ne sait pas comment la qualifier. Qualifier les massacres, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire génocide. On promet le tribunal aux coupables. C'est vrai, les Alliés avaient inscrit à un moment donné, dès 1942, le jugement des criminels, les nazis, dans leur but de guerre, mais ils pensaient la gagner. On a le sentiment que cet activisme...
Il y avait Staline dans les Alliés.
Oui, il y avait Staline dans les Alliés, en plus. D'où le silence sur Katyn au procès de Nuremberg. Le massacre de Katyn, longtemps imputé aux nazis et qui a été commis par la Russie soviétique. Bien, mais maintenant... on a l'impression que cet activisme est sympathique, idéaliste, mais de toute façon, de tels jugements ne risquent pas d'avoir lieu, car ça compense une certaine impuissance politique. Personne n'ira jusqu'à se battre pour les Ukrainiens sous la menace d'une puissance nucléaire telle que la Russie. Donc, ce qui est annoncé, de toute façon, c'est une forme de défaite, conquête du Donbass au minimum. Alors moi, je vous demande, y a-t-il un autre avenir possible, et quel peut être le rôle, justement, sinon de la communauté internationale, dont il ne faut pas oublier qu'elle est très divisée, du moins de l'Occident, dans la construction d'un monde à peu près civilisé et dans la sortie, non pas de crise, mais de guerre. Hubert Védrine.
Ça nous ramène au cadre général et au fait qu'après la fin de l'URSS, les Occidentaux, on l'a dit, hubris, triomphalisme, hyperpuissance, ont pensé que l'économie globale, dérégulée, financiarisée, allait s'imposer partout et que nos valeurs universelles s'imposaient partout. Et il y a eu toute une série de râteaux qu'on a pris dans le nez. Et on arrive à la situation où à l'Assemblée générale des Nations unies, il y a quand même 40 pays qui refusent de condamner l'agression de la Russie alors qu'elle est évidente et qui représentent la majorité de l'humanité. Les 40 pays. Et donc, il y a une sous-estimation, une désinvolture, une négligence, pour ne pas parler d'arrogance, de la part des Occidentaux, là, par rapport à l'évolution russe. Mais c'est vrai par rapport à des tas d'autres parties du monde qui vont nous ressauter la figure plus tard. Ça, c'est un autre sujet. Alors, dans l'immédiat, il faut espérer que la cohésion occidentale qui est forte, parce que Poutine n'a pas réveillé l'Europe, il a réveillé l'OTAN, là, pour le moment. Il faut espérer que cette cohésion occidentale va tenir, même s'il y a une aggravation horrible, ou un élargissement, tel tiendra, ou dans l'autre hypothèse où il y aurait un cessez-le-feu et où les Ukrainiens se résigneraient à perdre une partie du pays, là, les Occidentaux risqueraient de se diviser par rapport à ça, il ne faudrait pas. Ça, c'est dans l'immédiat. Et à long terme, la coexistence, c'est dur à dire aujourd'hui, c'est même douloureux à dire, mais est-ce qu'on on ne peut pas imaginer de retrouver un jour une coexistence possible. Pendant la guerre froide, il y a eu quand même les menaces terribles. On était au bord du gouffre cubain, et puis il y a eu coexistence, même détente. Mais c'est presque impossible à imaginer avec Poutine, sauf si les Ukrainiens eux-mêmes le disent. On n'a pas le choix, puisque vous ne pouvez pas entrer en guerre, parce qu'aucun parlement d'un pays démocratique voterait la guerre, en vrai. Beaucoup d'aide, encore plus de sanctions, si ça sert à quelque chose, mais pas la guerre. Donc il se peut qu'il y ait une situation compliquée à gérer, mais un jour ou l'autre, après tout ça, on retombera sur la question. Comment on s'organise? Alors bien sûr, il y a quel genre de Russie? Est-ce qu'on peut parier sur le fait qu'à l'intérieur de la Russie, tout ça va avoir des effets corrosifs, positifs, et aboutir à l'apparition d'une sorte de, pas forcément de démocratie, mais enfin, un système russe plus pacifique, moins obsédé par toutes ces espèces de vengeance historique, ou de, etc., etc., peut-être. En tout cas, on retombera sur ces questions qui ne sont pas à traiter aujourd'hui, mais qu'on ne peut pas éliminer complètement. Il y aura toujours la Russie à côté, elle-même terrorisée par le fait que, entre l'Oural et Vladivostok, il y a 20 millions de Russes. 20 millions. C'est rien, c'est une petite bourgade chinoise, juste à côté de la Chine. Donc il y a toute une espèce de contexte qui fait qu'on ne peut pas renoncer complètement à l'idée qu'un jour on puisse avoir un voisinage, non pas très chaleureux, mais enfin, disons pacifié avec la Russie d'après-demain, peut-être.
Et il faut déjà commencer à y penser aujourd'hui dans nos relations actuelles avec la Russie, ou non?
Non, parce que non, dans l'immédiat, les dirigeants occidentaux sont très contents, enfin, trouvent utile pour l'avenir que l'un d'entre eux, en l'occurrence le président français pour le moment, garde le lien. Parce que ça peut servir un jour, peut-être. Bon, mais c'est tout. On ne peut pas aller au-delà. Ou alors, il faudrait qu'apparaissent en Russie des voix un peu discordantes, avec lesquelles peut-être des Russes, des diasporas, vous voyez, à l'extérieur, pour imaginer la suite. Mais on ne peut pas aller au-delà. On est la guerre est là, il y a peut-être des horreurs encore devant nous. Bon, donc c'est un peu trop tôt. C'est trop tôt.
Philippe Delard.
Oui, ben je pense en effet qu'il n'y aura pas, à court terme, de paix entre l'Ukraine et donc entre l'Europe occidentale et la Russie, mais on va arriver à un cessez-le-feu, mais la normalisation de la situation sera très très longue, parce que justement il y a une différence importante, j'ai parlé totalitarisme au début, entre la Russie de Poutine et l'URSS. Ce qui rendait la coexistence pacifique possible, ou en tout cas la détente, c'est le caractère autarcique de l'Empire soviétique. Alors qu'aujourd'hui, la Russie, malgré son évolution depuis 20 ans, est un pays très inséré dans la mondialisation. C'est-à-dire, si vous voulez, on a eu tort, Hubert Védrine a raison de le dire, que la mondialisation serait heureuse et heureuse pour tout le monde, mais c'est un fait. En revanche, la Russie est...
Non pas qu'elle soit heureuse, mais qu'elle existe.
Elle existe, oui. Voilà. Elle existe, et ce qui en fait complique beaucoup les relations. Et alors, je ne parierais pas sur une défaite significative de l'Ukraine.
Hein,
cette guerre n'est pas terminée.
Est-ce qu'on peut parier quand même sur une conquête du Donbass par Poutine, qui pourrait présenter quand même ce cessez-le-feu comme une victoire?
Tout dépend de la frontière du dit Donbass, et la question clé, c'est la mer d'Azov. Parce que, donc, le port de Mariupol, ça n'est pas un hasard si Mariupol est le lieu de combat acharné. C'est pas seulement parce que c'est un symbole, c'est lors de la guerre en 2014, les Russes et les séparatistes voulaient prendre Mariupol, ils n'y sont pas parvenus, donc il y a un côté revanche. Mais c'est parce que Mariupol, c'est la clé de la mer d'Azov. Or, la mer d'Azov, ça n'est pas simplement, disons, un appendice de la mer Noire, c'est, si elle devenait entièrement russe, c'est non seulement la continuité territoriale avec la Crimée, mais enfin, il y a déjà un pont qui l'assure, mais c'est surtout l'accès direct aux mers chaudes sans faire le tour, puisque il y a un canal qui relie la mer Caspienne au Don. le canal, il y a un canal de la Volga au Don qui permet de passer de la mer Caspienne au Don, et le Don se jette dans la mer d'Azov.
C'est ce qui aurait dû être négocié il y a 20 ans, tout ça.
Oui. Et donc, ça serait un changement géopolitique majeur si la Russie devenait une puissance maritime. Mais de toute façon, je pense qu'on va se retrouver dans une situation à l'israélienne, que l'Ukraine va devenir un Israël européen pour de nombreuses années, c'est-à-dire une démocratie sécuritaire qui est obligée de coexister avec des...
Mais c'est un Israël qui n'occupe pas de territoire.
C'est oui, c'est Israël à l'envers. C'est un...
Si je puis me permettre.
Oui, mais c'est pour ce qui est de la relation avec ses voisins, et qui réussit quand même à exister, à se développer, et qui même, on pourrait dire, que qui est stimulé par l'adversité pour être les meilleurs dans le renseignement, les meilleurs dans le high-tech, etc. C'est plutôt un avenir comme ça que je vois.
Vous êtes d'accord, Hubert Védrine? Oui, les derniers mots sont pour vous, mais très brièvement.
Non, mais c'est très court. Est-ce que vous pensez que l'hypothèse où les Ukrainiens diraient on est obligé d'accepter quand même la perte d'une partie du territoire, comme les Finlandais l'avaient dit en 40, et ils accepteraient une sorte de cessez-le-feu, et qui frustrerait énormément une partie de l'Occident, par un point ça.
C'est
une hypothèse envisageable,
c'est
ou pas du tout.
Bien sûr, il y aura un cessez-le-feu, mais ça ne sera pas un accord de paix. C'est ça que je voulais dire.
Bon, bah écoutez, très bien, nous allons conclure ainsi. Et je vous remercie tous les deux, Philippe Delara, Hubert Védrine, vous publiez dans la prestigieuse collection Bouquins, devenue maison d'édition à part entière, une vision du monde où vous rassemblez vos textes majeurs. C'est un livre absolument passionnant. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Yvan Charby. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La crise de la démocratie américaine ». Mes invités sont Rana Lévy et Philippe Reynaud. Dans un instant, Concordance des temps avec Jean-Noël Jeannonet.